Alors, je vous parlerai de l'écriture plurielle chez Massimo D'Azeglio, une personnalité qui s'avère singulière parmi les personnalités du Risorgimento italien. La diversité, l'originalité, le sens de la variation dans les entreprises, les œuvres et la vie même de Massimo D'Azeglio, 1798-1866, sont autant de caractéristiques qui se manifestent de manière très précoce et remarquable. Tout au long de sa vie, D'Azeglio fait preuve d'une personnalité polyvalente et ductile, capable de s'adapter aux situations les plus disparates et les plus délicates, notamment en politique, et d'en rendre compte dans divers registres de communication, en particulier ceux qui sont liés à la mémoire. La remémoration engendre, en effet, chez D'Azeglio, surtout dans les registres épistolaires et autobiographiques, une pluralité de discours. Cet aristocrate piémontais, peintre, romancier, épistolier, essayiste, autobiographe, mais aussi soldat et homme politique, a fait du Piémont un symbole de la modernité par le biais d'une politique courageuse mais mesurée. Lorsqu'il devient président du Conseil du Royaume de Sardaigne en 1849, charge qu'il assumera jusqu'en 1852, il est déjà, depuis longtemps, un personnage célèbre non seulement grâce à ses romans et à son œuvre picturale, mais encore parce qu'il est devenu un membre de tout premier plan du Parti modéré. Dès le début, il assume sa charge politique en considérant le Piémont comme l'état guide du processus de modernisation et d'indépendance de l'Italie et comme l'étendard du mouvement libéral en Europe. Il exerce une politique de réorganisation et de transformation du Piémont après la défaite de Novare, en renforçant l'armée, en développant les structures internes et en améliorant la situation économique de l'État. Par les lois Sicardi, il consolide les liens qui unissent l'Église et l'État sur des bases plus modernes, abolissant le vieux privilège ecclésiastique en matière de justice. D'Azeglio s'affirme, ce faisant, comme un protagoniste incontournable de la scène politique italienne dans les années cruciales du Risorgimento. Par son action politique, il pose les bases de l'œuvre de Cavour, qui utilisera encore, au cours des années suivantes, le prestige international de D'Azeglio et sa disponibilité au service de la cause italienne. Mais chez D'Azeglio, l'écriture reste le fondement de l'action. Elle la précède autant qu'elle l'accompagne sous des formes discursives multiples, parfois même dans des domaines inattendus comme le dessin et la peinture. La première marque d'originalité se manifeste en effet lorsque Massimo, âgé de 20 ans, décide de quitter le cocon familial et la perspective d'une prestigieuse carrière militaire pour se consacrer à la peinture professionnelle dans la campagne romaine, au contact de maîtres les plus illustres du débat du XIXe siècle. Une décision qui perturbe sa famille, notamment son père Cesare, très attaché aux valeurs monarchiques et militaires, mais qui sera, au fil des années, acceptée puis soutenue. Très rares étaient à l'époque ceux qui, appartenant à une famille de l'entourage royal, décidait de s'éloigner pour entreprendre un parcours artistique et, pour ainsi dire, bohémien. Ce choix, d'abord motivé par un besoin existentiel, revêt également une importance géographique, a fortiori pendant les années qui précèdent les moments clés du Risorgimento. Un tel choix est révélateur d'une tendance, chez D'Azeglio, à élargir ses horizons. Ce qui, au début, est principalement un cri de liberté et le geste passionné d'un jeune homme en quête de soi, va se révéler assez rapidement être le prélude de l'affirmation d'une certaine italianité. Il s'agit d'une spiemontesizzazione, si l'on peut dire, une sorte de grand tour particulièrement à la mode à cette époque. Mais au lieu de partir vers des pays exotiques ou en Europe, comme Alfieri par exemple, D'Azeglio arpente l'Italie tout entière, du nord au sud. Chemin faisant, il acquiert une connaissance sociale, politique et culturelle de la péninsule et de ses populations, qui lui permettra d'affronter par la suite les étapes les plus importantes et complexes du processus de l'unification italienne. Les dessins et les tableaux de D'Azeglio, très nombreux et réalisés tout au long de sa vie, opèrent en quelque sorte une unification idéale entre les hommes et les paysages italiens. Et, au demeurant, ils portent en eux l'aspiration à l'unité. Mais ils célèbrent aussi les gestes héroïques du passé italien pour transmettre un message quasi didactique aux jeunes patriotes de l'Italie du Risorgimento. Dans cette optique, D'Azeglio a été le premier, en Italie, à concevoir la représentation du paysage comme un paesaggio historiato, où les éléments de la nature deviennent le fond scénographique d'une action historique et dramatique. En réalité, si le Studio dal Vero constitue sa première inspiration artistique, il concevra par la suite la nature comme un décor exemple d'une époque. Dès lors, les marines et les forêts italiennes deviennent, dans sa peinture, des lieux de rencontres animés par les personnages de l'histoire. Des tableaux comme la Battaglia di Legnano, la Disfida di Barletta ou la Battaglia di San Quintino incarnent parfaitement cette nouvelle orientation. L'artiste D'Azeglio opère de la sorte une synthèse entre la technique picturale à laquelle il s'est formé à Rome auprès des peintres romantiques et une nouvelle sensibilité où la peinture revêt des connotations politiques et patriotiques, aptes à réveiller la fierté nationale. Il devient le promoteur d'une nouvelle approche du paysage pictural, considéré comme un théâtre idéal et spectaculaire de la réalité historique. Ainsi, les œuvres iconographiques qui constituent la genèse de ces trois romans d'inspiration historique, Ettore Firamosca, Niccolò de Lapi et La Lega Lombarda, couvrent et reproduisent tout le territoire de l'Italie, montrant un point de vue sensiblement élargi en regard de celui d'autres écrivains septentrionaux. Mais pour le patriote D'Azeglio, être peintre ne suffit pas. L'artiste éprouve le besoin d'amplifier par d'autres formes d'expression son action patriotique. C'est principalement à travers les pages de ses romans qu'il célèbre l'identité italienne à reconstruire et à réévaluer, du nord, dans la Lega Lombarda, au sud, dans Ettore Firamosca, en passant par le centre, dans Niccolò de Lapi. Sur le plan chronologique, Ettore Firamosca, son premier roman, témoigne clairement de l'évolution de la pensée de D'Azeglio dans le sens d'une propagande nationale. Le lien thématique et idéologique étroit qui unit le tableau représentant la Disfida di Barletta et le roman Ettore Firamosca est explicité par D'Azeglio lui-même dans son autobiographie I miei ricordi. Je cite: «Un giorno me ne ricordo come fosse ora. Stavo terminando quel gruppo di cavalli azzuffati che sta nel mezzo e mi venne considerato che, data l'importanza del fatto e l'opportunità di rammentarlo per mettere un po' di fuoco in corpo agli italiani, sarebbe riuscito molto meglio e molto più efficace raccontato che dipinto. Dunque raccontiamolo», dissi. «Il mio scopo era iniziare un lento lavoro di rigenerazione del carattere nazionale. Io desideravo esclusivamente ridestare alti e nobili sentimenti nei cuori». Le réveil de la conscience nationale est donc le but de cette entreprise romanesque, dans l'attente d'un programme d'action politiquement opérationnel. Après la période romaine, commence une période milanaise qui va de 1831 à 1844 et occupe une place centrale dans l'histoire des vicissitudes humaines et artistiques de l'auteur. La fréquentation d'Alessandro Manzoni, dont D'Azeglio épouse la fille Giulietta, et le remarquable succès qu'obtiennent ses tableaux dans les cercles intellectuels de Milan contribuent également à son évolution littéraire. Lorsque Massimo se consacre à son deuxième roman, Niccolò de Lapi, publié en 1844, il le fait sur la base de nombreux dessins et de plusieurs voyages effectués en Toscane en 1838 à la recherche de documents sur l'histoire locale du XVIe siècle. Ce roman, en effet, s'efforce de véhiculer une mémoire historique et psychologique visant à indiquer aux Italiens un nouveau chemin vers l'indépendance du pays. Ce que D'Azeglio cherchait dans l'histoire florentine du début du XVIe siècle, c'est avant tout l'âme d'un peuple indompté. Cela explique aussi, en partie, l'adhésion de D'Azeglio au programme des modérés, dans les rangs desquels avait pris forme un regain d'intérêt pour les études historiques, et plus précisément pour l'histoire italienne. La genèse du deuxième roman d'inspiration historique est révélée elle aussi par différents registres de communication, des lettres, mais aussi tout un carnet d'esquisses et un chapitre dei miei ricordi, que l'auteur lui-même définit comme « il mio umile diario da touriste ». Dans ce dernier texte, l'autobiographie de D'Azeglio se transforme en une paisible narration de voyage et l'aventure culturelle en une série d'annotations ethno-paysagistes au gré d'un rapprochement entre la littérature et le tourisme. Florence était considérée par l'écrivain piémontais comme la ville italienne par excellence, le lieu idéal pour la future capitale de l'Italie. Dans une lettre, par exemple, il constate chez les Florentins, je cite, « un miglioramento nella parte morale, si studia, si pensa, si procura d'andare avanti ». C'est précisément dans le débat au sujet de la future capitale de l'Italie que D'Azeglio, en adoptant une position inattendue, est apparu comme le plus grand adversaire de Giuseppe Mazzini et de Cavour. Ce dernier, en effet, avait déclaré que la nation s'engageait à faire de Rome la capitale de l'Italie, un choix motivé par le passé glorieux de la ville. De même, pour Mazzini, Rome était le moteur de l'histoire italienne et la Rome républicaine représentait les idéaux de la Grande Révolution de 1848. L'Italie, héritière de Rome, devait assumer, face à l'humanité, un engagement total pour une grande mission. Le pouvoir à Rome s'identifiait donc profondément au mythe de la ville et à son histoire. Or, c'est pour cette raison même que D'Azeglio se trouva farouchement opposé à une telle option. Si, à ses yeux, la ville de Florence est exemplaire dans l'apprentissage de la connaissance historique et dans la construction d'un projet national pour l'Italie du XIXe siècle, à l'inverse, Rome lui apparaît comme un contre-exemple, la ville la moins adaptée pour représenter une jeune nation qui doit se reconstruire sur des bases morales et civiques solides. Il décide alors d'exposer ses idées dans le pamphlet « Questioni urgenti » en 1860, l'un de ses nombreux essais politiques rédigés au cours de ses 20 ans d'expérience politique et diplomatique. Pour D'Azeglio, la nouvelle Italie doit se fonder sur l'indépendance des opinions et des caractères, sur la diffusion libre des idées, sur le progrès scientifique, économique et culturel. L'exemple de la Rome antique est totalement étranger à ses principes, puisque la base de sa puissance était l'esclavage de peuple. De même, l'auteur adopte une attitude très critique à l'égard du pape et de son pouvoir temporel. Il blâme vivement la Rome des années 1860 de ne représenter ni l'Évangile ni le catholicisme, et le pape d'être au cœur des conjurations et des désordres contre la nation. À l'image du pamphlet « Questioni urgenti », l'écriture politique occupe une place déterminante dans l'œuvre et dans l'action de D'Azeglio. Elle constitue un autre registre de communication qui lui permet de se distinguer ultérieurement. À partir de 1845, D'Azeglio entreprend son militantisme politique au sein du Parti modéré. Il effectue un voyage dans les États pontificaux où la situation précaire risque de dégénérer en des émeutes insurrectionnelles et de donner à l'Autriche le prétexte à de nouvelles répressions. Il s'emploie à persuader la population d'abandonner les résolutions révolutionnaires et de s'unir dans l'idéal modéré et albertiste. Le 12 octobre 1845 a lieu la célèbre audience avec Charles Albert, à l'occasion de laquelle il fait au souverain le compte-rendu de sa mission. Cet entretien est la consécration officielle de l'albertismo et le prologue idéal du premier essai politique de D'Azeglio, degli ultimi casi di Romagna. L'opuscule connaît un succès retentissant et il devient rapidement l'un des manifestes de la pensée modérée en Italie. Au nombre des écrits publiés par D'Azeglio figure un texte très significatif aussi, intitulé « Proposta di un programma per l'opinione nazionale italiana ». En outre, un témoignage de l'attention que D'Azeglio porte aux problèmes civils est consigné dans son pamphlet sur l'émancipation civile degli israéliti, qui soutient les initiatives de son frère Roberto en faveur des minorités religieuses du Piémont. D'autres écrits dénoncent la pesante ingérence autrichienne dans les événements italiens. Il s'agit de protestes per casi di Ferrara et i lutti di Lombardia. D'Azeglio poursuit son activité d'essayiste tout au long de sa vie. Nous retiendrons le texte « Agli elettori, lettera di Massimo D'Azeglio », rédigé en 1865, un peu avant sa mort, dans lequel il adresse aux Italiens un vibrant appel à l'union nationale. La forme épistolaire est également omniprésente dans l'écriture de D'Azeglio. Ses lettres, plus de 5000, permettent de suivre chronologiquement son parcours familial et politique, ainsi que l'ensemble des expériences de toutes sortes qui ont jalonné sa vie. Il existe une dialectique permanente entre l'émissive et les autres formes de communication chez D'Azeglio, et elle constitue bien souvent un espace autobiographique parallèle aux témoignages que l'on trouve dans I miei ricordi. La correspondance de D'Azeglio, aujourd'hui recueillie dans les 7 premiers volumes de l'épistolario, l'imposante remarquable exégèse entreprise par Georges Virogeux, constitue un laboratoire linguistique où l'auteur teste son écriture, en se servant de langues ou idiomes variés, comme l'italien bien sûr, mais aussi le français, l'anglais, l'espagnol, le latin, voire le piémontais et le milanais. Si nous nous référons, par exemple, à une lettre de 1851 adressée à Paolina Crova Balbo, la sœur cadette de Cesare Balbo, nous pouvons lire en français dans les textes, mais pas seulement. Je cite. « Ma chère Pauline, vous devez dire, et vous aurez dit sans doute, que je suis un ingrat, un barbare, un sauvage et simili, pour avoir tant tardé à vous remercier de votre charmant souvenir. Eh bien, je suis pire que tout cela. Je suis ministre. » Ce qui renferme toutes les misères et molte altre ancora, parmi lesquelles la difficulté ou l'impossibilité parfois de trouver un instant pour écrire un mot à ses amis. Ainsi, pardonnez-moi et ne croyez pas que j'ai été indifférent à votre souvenir dont je vous dis mille grazie, merci, thank you, mille gracias, grazie a ti Biago et finalement ben obliga. Pour vous remercier dans toutes les langues connues. Aussi, beaucoup d'autoronies aussi chez D'Azeglio, très très souvent. Par le mélange des tons, des formes, des langues et des circonstances de la rédaction épistolaire, D'Azeglio s'affranchit des règles établies, il acquiert une grande aisance dans l'expression et se dote d'une écriture personnelle épanouie. Cela explique que l'on trouve, dans son abondante et riche correspondance, des formes d'écriture épistolaire aussi disparates que le document historique, le forum social, le discours pédagogique, la gazette journalistique, l'invective, le texte miroir de l'âme, ainsi que des missives rédigées dans un style cicéronien et d'autres encore dans un style sévinien. Mais, d'une manière générale, les lettres de D'Azeglio sont caractérisées par une constante propension dichotomique entre l'expression du « moi » et l'exercice de la sociabilité. De nombreuses lettres de D'Azeglio ont pu ainsi jouer un rôle important sur la scène des événements du Risorgimento, notamment tous les textes épistolaires qui n'avaient pas forcément un seul destinataire, comme les lettres à vocation circulaire, les textes codés, les écrits journalistiques, ou à caractère critique et philosophique. Nombre de ces textes constituent de véritables documents pour la compréhension de certains aspects spécifiques du Risorgimento. En ce sens, on peut dire que l'activité épistolaire de l'écrivain piémontais se fait l'écho des événements politiques, sociaux et économiques de son époque. Sur un plan purement formel, la longue expérimentation linguistique effectuée dans les lettres a permis à l'auteur d'améliorer et de préciser progressivement le style et le langage qu'il mobilisera dans la rédaction de ses œuvres successives, bien qu'il ne s'agisse pas d'un travail véritablement programmé. La relation étroite et le long processus d'homogénéisation qui relie chez D'Azeglio le discours épistolaire, la représentation figurative et l'expression littéraire trouvent leur confirmation dans la dernière phase de sa vie, celle qu'il consacre à la rédaction de son autobiographie, dont le récit s'arrête aux événements de 1845. À ce sujet, il écrit à sa femme Louisa Blondel, je cite, « La scoperta degli album e degli studi è veramente una buona nuova per me. Io che non ho la bosse della possessività per il resto, l'ho sempre maggiore per i miei studi. Sono il giornale della mia vita. Quanto alle lettere, se verrà un giorno in cui cerchi ricordarmi delle fortune passate e scriverne qualche pagina, ho idea che quelle potranno trovare il loro posto. » On le voit bien, à la lumière de ce témoignage, le dessin et la lettre acquièrent chez D'Azeglio une dimension formatrice, dans le sens d'une compréhension et d'une redéfinition de soi. À travers sa quête méthodique de soi, D'Azeglio parvient, à la fin de sa vie, à une écriture proprement pédagogique, à l'usage des jeunes Italiens. C'est ainsi que le Sermo Quotidianus de la correspondance et la mémoire iconographique le ramènent naturellement à l'écriture autobiographique. Et c'est presque aussi naturellement que nous conclurons notre propos par quelques considérations concernant I miei ricordi, le récit autobiographique de Massimo D'Azeglio, interrompu par la mort de l'auteur. Commencé en 1863, ce travail l'occupe durant les dernières années de sa vie, alors qu'il se tient définitivement à l'écart de la scène politique. I miei ricordi se présentent, au premier abord, comme une specie d'autopsie morale, selon les propres mots de D'Azeglio. Et cela s'avère partiellement vrai. Toutefois, au fil des pages, l'ouvrage apparaît aussi comme une forme de synthèse mémorielle collective. Je cite « les memorie nostre, mie, del paese, degli amici ». D'Azeglio y met en scène son jeu entouré d'une choralité de personnages, en faisant appel à des scénographies narratives différentes au gré des situations évoquées, comme la confession, l'étude ethnographique, le portrait, la chronique ou le récit de fiction. La remémoration se révèle ainsi imprégnée de spécimens d'écriture que l'auteur fait confluer dans la rédaction de son texte autobiographique. I miei ricordi peut donc apparaître comme un livre mosaïque composé de fragments d'écriture qui appartiennent à des modèles littéraires différents. C'est dans ce cadre multiforme que l'auteur présente à ses lecteurs une galerie de personnages censés être des exemples et incarner des modèles pour la nouvelle génération d'Italiens. C'est pourquoi, en dernière analyse, I miei ricordi est aussi un livre pédagogique, imprégné d'un fort sentiment national, par le truchement duquel D'Azeglio souhaite s'adresser prioritairement aux jeunes Italiens et les exhorter à entreprendre une action de transformation et de renouvellement salvatrice pour leur pays. Née d'un besoin individuel de témoigner, l'histoire de la vie de Massimo D'Azeglio devient, de fait, une histoire collective où le présent de l'écriture se veut vecteur d'espoir pour les générations futures. Je vous remercie.